de Henry, un cas de conscience. Un gardien entra dans l'atelier de chaussures où Jimmy Valentine était en train de coudre laborieusement des empeignes et l'accompagna jusqu'au bureau principal. Là, le directeur de la prison informa Jimmy que sa grâce avait été signée le matin même par le gouverneur. Jimmy prit le papier qu'on lui tendait avec un air de lassitude. Il n'avait accompli que 10 mois d'une condamnation à 4 ans de prison. Il avait calculé à son entrée qu'il ne resterait qu'environ 3 mois au plus. Quand un homme qui a autant d'amis à l'extérieur que Jimmy Valentine pénètre en tôle, c'est tout juste s'il est nécessaire de lui couper les cheveux. « Alors, Valentine, dit le directeur, vous partirez demain matin, reprenez-vous et tâchez de devenir un homme. Vous n'êtes pas un mauvais type, dans le fond. Cessez de fracturer des coffres forts et vivez honnêtement. »«
Moi ? »
fit Jimmy d'un ton surpris, « mais je n'ai jamais fracturé un coffre fort de ma vie. » « Oh non !» s'écria le directeur en riant. « Sûrement pas. Voyons voir. Comment se fait-il que l'on vous ait incarcéré pour cette affaire de Springfield ? Est-ce parce que vous ne pouviez pas produire un alibi par crainte de compromettre quelqu'un de très haut placé ? Ou est-ce simplement parce que vous êtes tombé sur un vilain vieux jury à qui votre tête ne revenait pas ? C'est toujours l'un des deux avec vous autres, innocentes victimes. »
« Moi ?»
fit Jimmy avec une vertueuse indignation. « Mais, monsieur le directeur, je n'ai jamais mis les pieds à Springfield de ma vie !»« Ramenez-le, Cronin, » dit le directeur en souriant, « et procurez-lui un complet pour sa sortie. Lâchez-le demain matin à 7 heures et amenez-le à la levée d'écrou. Et maintenant, vous feriez bien de suivre mon conseil, Valentine. » À 7h15, le lendemain matin, Jimmy se tenait dans le bureau du directeur. Il était vêtu d'un de ses vilains complets tout faits et chaussé d'une paire de ses chaussures raides et grinçantes que l'État fournit gratuitement à ses pensionnaires lorsqu'il les relâche. Un gardien lui tendit un ticket de chemin de fer et le billet de $5 grâce auquel il devait pouvoir, selon les convictions et prescriptions du gouvernement, se réhabiliter et redevenir un bon, honnête et prospère citoyen. Le directeur lui donna un cigare et lui serra la main. Valentine, numéro 9762, fut inscrit dans les livres comme gracié par le gouvernement et Monsieur James Valentine sortit dans la rue ensoleillée. Indifférent au chant des oiseaux, au balancement des arbres verts et au parfum des fleurs, Jimmy se dirigea tout droit vers un restaurant. Là, il goûta les premières et douces joies de la liberté, sous la forme d'un poulet rôti et d'une bouteille de vin blanc, suivi d'un cigare un peu meilleur que celui que lui avait été offert par le directeur. Puis il se mit en route, sans se presser, vers la gare. En passant, il laissa tomber une petite pièce de monnaie dans le chapeau d'un aveugle qui était assis près d'une porte, puis il monta dans le train. 3 heures plus tard, il atterrissait dans une petite ville auprès de la frontière de l'État. Il se rendit immédiatement dans le café d'un certain Mike Dolan et serra la main de Mike qui était seul derrière le comptoir. « Oh, je regrette qu'on n'ait pas pu y arriver plus tôt, Jimmy, mon garçon, » dit Mike. « Ben, il a fallu se défendre contre ces types de Springfield qui gueulaient comme des putois et le gouverneur était sur le point de flancher. Comment te sens-tu ?»« Magnifique, » dit Jimmy. « Tu as ma clé ?» Il prit sa clé, monta l'escalier et ouvrit la porte d'une chambre située dans la partie reculée de l'étage. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé. Là, sur le plancher, se trouvait encore le bouton de colle de Ben Price qui avait été arraché au plastron de cet éminent détective lorsque Jimmy avait été maîtrisé et arrêté. Jimmy rabattit le lit pliant qui était encastré dans le mur, puis fit glisser un petit panneau secret et en tira une sacoche couverte de poussière. Il l'ouvrit et contempla avec amour le plus bel outillage de cambrioleur qui exista dans l'Est. C'était une trousse complète, entièrement fabriquée d'acier spécial extra dur et composée de toutes les dernières nouveautés les plus perfectionnées en matière de poinçons, forêts, vilebrequins, chignols, crampons et pinces Monseigneur, sans compter deux ou trois engins inventés par Jimmy lui-même et dont il était très fier. Ça lui avait coûté plus de $900 chez X, le fournisseur habituel des gentlemen de la profession. Une demi-heure plus tard, Jimmy redescendit et traversa la salle du café. Il était maintenant vêtu d'un complet de bon goût, bien ajusté, et portait sa précieuse sacoche soigneusement essuyée. « Quelque chose en vue ?» demanda Mike Dolan d'un ton cordial. « Moi, » fit Jimmy avec une affectation de surprise, « je suis représentant de la compagnie anonyme des biscuits en cire de bois et balles de blé agglomérées, siège social à New York. » Cette déclaration réjouit Mike à un tel point que Jimmy dut accepter de prendre immédiatement un lait au soda. Il ne touchait jamais aux boissons fortes. Une semaine après l'élargissement de Valentine, numéro 9762, il se commit à Richmond, dans l'Indiana, un beau petit cambriolage, avec fracture de coffre-fort, sans aucun indice qui pût faire retrouver l'auteur de ce méfait. Ce n'était là qu'une petite affaire de $800 tout au plus. 15 jours plus tard, un coffre-fort breveté, incrochetable et inviolable dans la ville de Longansport fut éventré aussi facilement qu'un fromage et vidé de $1,500. Les pièces d'argent et les valeurs mobilières n'avaient pas été touchées. Cela commença à intéresser la police. Alors un vieux coffre-fort à la mode ancienne de Jefferson City se mit en éruption et cracha par son cratère une lave de billets de banque d'une valeur de $5,000. Les pertes atteignaient maintenant une valeur suffisante pour décider Ben Price à entrer en lice. En comparant les rapports, on découvrit une remarquable similitude dans les méthodes de ces différents cambriolages. Ben Price inspecta les divers lieux où ces crimes avaient été commis et on entendit murmurer « ça, c'est signé Jimmy Valentine ». Il a rouvert sa boutique. « Regardez-moi un peu ce bouton de combinaison qui s'est arraché aussi facilement qu'un radis dans de la terre molle. Il est le seul qui possède des crampons capables de faire ça. » Et regardez comme ses gorges et ses mentonnets ont été proprement expulsés. Jimmy n'a jamais besoin de percer deux trous. Oui, je crois bien que je vais arrêter M. Valentine. Cette fois, il fera son temps jusqu'au bout. J'espère qu'on ne sera pas assez bête pour le gracier encore une fois. Ben Price connaissait les habitudes de Jimmy. Il les avait étudiées au moment de l'affaire de Springfield. Fuite rapide, long parcours, pas de complice et un goût prononcé pour la bonne société. Telles étaient les mœurs qui avaient aidé M. Valentine à s'acquérir une certaine renommée dans sa façon heureuse d'échapper au châtiment. Le bruit se répandit que Ben Price s'était mis sur la piste du cambrioleur vagabond et les possesseurs de coffres-forts incrochetables commencèrent à respirer. Un après-midi, Jimmy Valentine et sa sacoche descendirent tous les deux de la voiture postale à Elmore, une petite ville située à 5 miles de la gare la plus proche, dans la région des mines de zinc de l'Arkansas. Jimmy, qui avait l'air d'un jeune étudiant sportif, fraîchement éboulu du collège, s'engagea sur le trottoir en planche qui le conduisait à l'hôtel. Comme il arrivait à l'angle de la rue, une jeune femme traversa la chaussée, passa devant lui et pénétra dans un immeuble sur lequel Jimmy lut l'enseigne suivante, « Banque d'Elmore ». Jimmy Valentine rencontra le regard de la jeune femme, oublia qui il était et devint immédiatement un autre homme. Elle baissa les yeux et rougit légèrement. Les beaux garçons à l'air distingué étaient rares à Elmore. Jimmy empoigna par le bras un gamin qui flânait aux environs de la banque, comme s'il eût été un des actionnaires, et se mit à lui poser un tas de questions au sujet de la ville en provoquant ses réponses par des pourboires répétés. Bientôt, la jeune femme sortit de l'établissement, paraissant royalement inconsciente de l'existence du jeune homme à la sacoche, et suivit son chemin. Est-ce que cette jeune femme n'est pas Miss Polly Simpson? Demanda Jimmy insidieusement. Oh non, dit le gamin, c'est Miss Annabelle Adams. C'est son papa qui est propriétaire de la banque. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Elmore? Qu'est-ce que c'est que ça, une chaîne de montre en or? Oh, je vais avoir un bulldog. Vous n'avez plus de pièces pour moi? Jimmy se rendit à l'hôtel Planters, se fit inscrire sous le nom de Ralph Despenser et loua une chambre. Il s'appuya sur le comptoir et exposa son programme à l'employé. Il lui dit qu'il était venu à Elmore pour chercher une situation dans des affaires. « Comment marchait la chaussure en ce moment dans la ville ?» Il avait pensé à s'établir dans la chaussure. Quelles étaient les perspectives? L'employé fut impressionné par les vêtements et les manières de Jimmy. Il s'était cru lui-même jusqu'à maintenant une espèce de champion de la mode parmi la jeunesse maigrement dorée d'Elmore, mais il venait de découvrir soudain son infériorité. Tout en essayant de deviner comment Jimmy faisait son nœud de cravate, il lui donna cordialement tous les renseignements désirés. Mais il y avait certainement de bonnes perspectives dans la chaussure. Il n'y avait pas à proprement parler de boutique de chaussures en ville. Les souliers étaient vendus par les bazars et les épiciers. D'ailleurs, les affaires étaient prospères dans toutes les branches. Il espérait que M. Spencer se déciderait à s'établir à Elmore et puis qu'il s'y plairait et trouverait les habitants très agréables. M. Spencer répliqua qu'il s'arrêterait certainement quelques jours dans la ville pour étudier la situation. « Non, non, inutile d'appeler le groom, il porterait sa sacoche lui-même, elle était assez lourde. » M. Ralph Spencer, le phénix qui renaissait des cendres de Jimmy Valentine, des cendres produites par les flammes d'un accès sentimental soudain et altératif, s'établit à Elmore et se mit à prospérer. Il ouvrit une boutique de chaussures et s'assura bientôt une confortable clientèle. Il réussit également bien dans la société mondaine de la ville et se fit de nombreux amis. Et enfin, il accomplit le secret désir de son cœur. Il fit la connaissance de Miss Annabelle Adams et fut de plus en plus séduit par ses charmes. Au bout d'un an, M. Ralph Spencer se trouvait dans la situation suivante. Il avait acquis le respect de la communauté, son magasin de chaussures était florissant et il devait épouser Miss Annabelle Adams dans 15 jours. M. Adams, un typique banquier provincial, lourd et laborieux, estimait beaucoup Spencer. Annabelle était aussi fière de lui qu'elle en était éprise. Il se sentait autant chez lui dans la famille de M. Adams que dans celle de la sœur d'Annabelle, qui était mariée, que s'il en eût déjà fait partie. Un jour, Jimmy s'assit dans sa chambre, écrivit la lettre suivante, qu'il expédia par un moyen sûr et détourné à l'un de ses vieux amis de Saint-Louis. « Cher vieux copain, j'ai besoin de te voir chez Sullivan à Little Rock, mercredi prochain à 9 h du soir. » J'aurai recours à toi pour liquider quelques petites affaires. Et en même temps, je désire te faire cadeau de ma trousse d'outillage. Je sais que tu seras heureux de l'avoir, car tu ne pourrais pas te procurer le même pour 1 000 000 $. Tu sais, Billy, j'ai abandonné le vieux truc il y a 1 an. J'ai acheté un beau magasin. Je gagne maintenant ma vie honnêtement et je vais épouser dans 15 jours la plus belle fille de la terre. C'est la vraie vie, Billy, la vie honnête et droite. Je ne voudrais pas maintenant pour 1 million toucher à l'argent d'un autre homme. Lorsque je serai marié, je vendrai mon magasin. J'irai m'établir dans l'Ouest où je courrai moins de risques de voir de vieilles histoires se retourner contre moi. Je te le dis, Billy, c'est un ange. Elle croit en moi. Et pour rien au monde, je ne voudrais recommencer maintenant à faire la moindre malhonnêteté. Tâche d'être exact au rendez-vous chez Sullivan, car il faut que je te voie. J'emporterai les outils avec moi, ton vieil ami Jimmy. Le lundi suivant, l'expédition de cette lettre, Ben Price arriva discrètement à Elmore dans une voiture de livraison. Il se mit à flâner tranquillement dans la ville, selon son habitude, jusqu'à ce qu'il eût trouvé ce qu'il désirait savoir. De la pharmacie située en face du magasin de chaussures de Spencer, il put contempler tout à son aise, à travers la rue, son propriétaire. Alors, on va épouser la fille du banquier, murmura Ben entre ses dents. Un mot, c'est pas encore fait. Le lendemain matin, Jimmy prit son petit déjeuner chez les Adams. Il devait partir ce jour-là pour Little Rock afin de commander son costume de mariage et d'acheter un joli présent pour Annabelle. Ce serait la première fois qu'il quitterait la ville depuis son arrivée à Elmore. Il y avait maintenant plus d'un an qu'il avait renoncé à son ancienne profession, et il pensait pouvoir s'aventurer au dehors sans danger. Après le breakfast, une grande partie de la famille sortit avec Jimmy. Monsieur Adams, Annabelle et la sœur d'Annabelle, avec ses deux petites filles âgées respectivement de 5 et 9 ans. Ils accompagnèrent Jimmy jusqu'à l'hôtel où il logeait encore. Puis lorsque celui-ci redescendit avec sa valise qu'il était allé chercher dans sa chambre, ils se dirigèrent tous ensemble vers la banque. Là, devant la porte, se tenait la voiture de Jimmy avec Dolph Jimson qui devait le conduire à la gare. Tout le monde pénétra dans le grand hall de la banque et passa de l'autre côté des comptoirs aux barreaux de vieux chêne luisants et ouvragés. Jimmy les suivit, car le futur gendre de M. Adams était le bienvenu partout. Les employés étaient heureux d'être salués par ce beau et agréable jeune homme qui allait épouser Miss Annabelle. Jimmy posa sa valise par terre. Annabelle, dont le cœur bouillonnait de bonheur et de pétulante jeunesse, mit le chapeau de Jimmy sur sa tête et empoigna la valise. Est-ce que je ne ferais pas un chic commis voyageur? Demanda Annabelle. Mon Dieu, Ralph, comme c'est lourd! On dirait que c'est plein de lingots d'or. Oui, répondit Jimmy froidement, je l'ai rempli avec des chausse-pieds en acier nickelé que je renvoie au fournisseur. Je fais cela pour éviter les frais de transport. Je deviens terriblement économe. La banque d'Elmore avait fait installer récemment un nouveau coffre et une nouvelle voûte blindée. Monsieur Adams en était très fier. Il était heureux de le montrer à tout le monde. La voûte était petite, mais elle était munie d'une porte blindée d'un nouveau modèle qui se fermait au moyen de 3 solides pennes d'acier manœuvrées simultanément par une seule poignée et qui était inutile munie d'une combinaison brevetée. Monsieur Adams, d'un air rayonnant, en expliqua le fonctionnement à Monsieur Spencer, qui se montra poliment intéressé, bien que parfaitement profane en la matière. Les deux enfants, Maï et Agatha, étaient fascinés par le métal luisant et le mécanisme complexe de la serrure. Tandis qu'ils étaient ainsi occupés, Ben Price entra dans le hall. et s'accouda sur le comptoir, jetant de temps en temps un coup d'œil entre les barreaux. Il dit à l'employé qui l'interrogea qu'il n'avait besoin de rien. Il attendait seulement une personne qu'il connaissait. Tout à coup, on entendit plusieurs cris perçants poussés par les femmes en même temps qu'une violente commotion. Sans être aperçu de ses parents, May, la petite fille de 9 ans, pour s'amuser, venait d'enfermer Agatha dans la voûte. Elle avait baissé la poignée de la serrure et tourné le bouton de la combinaison, comme elle l'avait vu faire à M. Adams. Le vieux banquier sauta sur la poignée et la secoua violemment pendant quelques instants. « Impossible d'ouvrir la porte !» fit-il en gémissant. « Combinaison, papa encore, oh Dieu !» La mère d'Agatha se mit à pousser de nouveaux cris hystériques. « Silence !» dit M. Adams en levant sa main tremblante. « Taisez-vous pendant un moment !» Puis il se mit à crier aussi fort qu'il pouvait. « Agatha, écoute-moi !» Pendant le silence qui suivit ces mots, ils ne purent que percevoir faiblement les hurlements de l'enfant frappé de terreur dans la sombre voûte. « Ma petite chérie !» s'écria la mère. « Elle va mourir de frayeur. Ouvrez la porte, je vous en prie. Ouvrez-la, fracturez-la, faites quelque chose. » « Le seul homme qui puisse ouvrir cette porte, » dit M. Adams, d'une voix tremblante, « habite à Little Rock. Mon Dieu, Spencer, qu'allons-nous faire? Cet enfant, elle ne peut pas rester longtemps là-dedans. Il n'y aura bientôt plus assez d'air, et en outre, la frayeur va la faire tomber en convulsion. » La mère d'Agatha se mit à frapper frénétiquement la porte de la voûte avec ses mains. Quelqu'un parla de dynamite. Annabelle tourna vers Jimmy, ses grands yeux pleins d'angoisse, mais pas encore de désespoir. Pour une femme, rien ne semble tout à fait impossible à l'homme qu'elle vénère. « Mais ne pouvez-vous rien faire, Ralph? Ne pouvez-vous pas essayer ?» Il la contempla un instant d'un long et profond regard, avec un étrange et doux sourire sur les lèvres. « Annabelle, dit-il, donnez-moi cette rose que vous portez, voulez-vous ? » Bien qu'elle crût l'avoir sans doute mal compris, elle prit le bouton de rose qui était épinglé sur son sein et le lui tendit. Jimmy le mit dans la poche de son gilet, enleva son veston et retroussa ses manches. Dès ce moment-là, Ralph Despenser disparut et fit place à Jimmy Valentine. « Ôtez-vous tous de devant la porte !» ordonna-t-il brièvement. Il posa sa sacoche sur la table et l'ouvrit. À partir de cette minute, il parut être devenu inconscient de la présence des spectateurs. Il étala rapidement et avec ordre les instruments étranges et luisants, tout en sifflotant doucement comme il avait l'habitude de le faire lorsqu'il était au travail. Immobiles et silencieux, comme s'ils avaient été soudain ensorcelés, les autres le regardaient faire. Au bout d'une minute, le foret d'acier de Jimmy attaqua doucement la porte d'acier, et en 10 minutes, battant son propre record professionnel, Jimmy repoussa les peines et ouvrit la porte. Agatha, presque évanouie mais saine et sauve, se trouva immédiatement dans les bras de sa mère. Jimmy Valentine remit son veston, traversa les comptoirs et se dirigea vers la porte d'entrée. Tout en marchant, il lui sembla entendre une voix lointaine et bien connue appelée « Ralph ». Mais il n'eut même pas une seconde d'hésitation. À la porte, il rencontra un homme de haute taille qui se trouvait sur son chemin. « Allô, Ben !» dit Jimmy, toujours avec son étrange sourire. « Vous voilà enfin !»« Eh bien, allez-y, après tout. Cela m'est égal maintenant. » Et alors Ben Price agit d'une manière assez étrange. « Je crois que vous vous trompez, Monsieur Spencer, » dit-il. Je ne me rappelle pas vous avoir jamais rencontré. Est-ce que ce n'est pas votre voiture qui vous attend là, dehors? Et Ben Price fit demi-tour, sortit et s'éloigna sans se retourner.